7 mars 2020, bibliothèque Niemeyer. Les animaux ont-ils des droits? Donc, depuis plusieurs années, les animaux sont devenus un sujet sensible. Des documentaires, des tribunes dans les journaux, des pétitions dénoncent des actes de maltraitance et appellent à des mesures en faveur des animaux, en prenant à témoin l'opinion publique. Alors, très récemment, la diffusion d'images tournées dans un abattoir par l'Association de défense des animaux L214 a suscité l'indignation. On y voyait des bovins soumis à des pratiques extrêmement cruelles avant d'être mis à mort. Plus l'élevage s'industrialise et obéit à des normes de rendement, plus ces animaux que sont les porcs, les bovins, les volailles sont considérés avant tout comme de la matière transformable, comme des machines à viande, sans égard aucun pour leur vie et leur sensibilité. Alors on pourrait encore évoquer la réduction des territoires que subissent de nombreuses espèces animales, réduction qui les voue à l'extinction en raison notamment des déforestations. On pourrait aussi parler des nombreux trafics dont les animaux sont souvent les objets et les victimes, mais la liste est très longue et je vais m'arrêter là. Si le spectacle des traitements cruels infligés aux animaux dans les abattoirs nous émeut et nous indigne, c'est bien parce que nous reconnaissons que ces animaux sont comme nous, des êtres sensibles, qui éprouvent de la souffrance. Mais alors, comment peut-on reconnaître que ces animaux souffrent du fait des pratiques que nous leur faisons subir et admettre en même temps qu'elles ont un caractère licite? Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse souffrir de cette manière des animaux? Alors on dira peut-être, après tout, ce ne sont que des bêtes. Et il n'est pas bien grave d'agir ainsi contre l'intérêt des bêtes. Si des hommes étaient ainsi maltraités, ce serait absolument inacceptable. Mais ce sont des bêtes. Nous faisons ainsi clairement la différence entre les hommes et les bêtes. Ainsi, n'est-ce pas parce que nous jugeons que les bêtes sont des êtres inférieurs, qui n'ont rien en eux-mêmes de respectable, que nous nous autorisons, je reprendrai après. Voilà. Donc, je reprends ma question. Est-ce que ce n'est pas parce que nous jugeons que les bêtes sont des êtres inférieurs, qui n'ont rien en elles-mêmes de respectable, que nous nous autorisons à les traiter comme des choses et demeurons indifférents à leur souffrance? Alors ici, je voudrais rappeler que la plupart des mythes et des religions nous enseignent que l'homme est un être exceptionnel. Voyez par exemple ce que dit la Genèse, c'est-à-dire le récit de la création du monde et de l'homme qui se trouve dans la Bible. Il y est dit que Dieu a créé l'homme à son image en le dotant d'un pouvoir de choisir sa conduite, de se déterminer par lui-même. C'est ce que les philosophes appelleront le libre arbitre. Et Dieu a confié donc à l'homme le soin de gérer le jardin d'Éden afin d'en cultiver les fruits, et aussi il lui a donné le pouvoir de commander aux animaux. L'homme apparaît ainsi comme le seigneur de la nature. Il est le centre de la création et les animaux n'ont qu'un rôle subalterne. Ils n'existent qu'en vue de satisfaire son usage, son bien-être. Or, n'est-ce pas parce que l'homme se considère comme un être exceptionnel, incomparablement supérieur aux autres êtres vivants, qu'il s'autorise à les traiter comme des choses qui sont à sa disposition et qu'il peut en venir à les maltraiter? D'où la question. Pour protéger les animaux, n'est-il pas nécessaire de mettre en cause la manière dont les hommes les conçoivent et aussi la manière dont les hommes se conçoivent eux-mêmes? N'est-il pas nécessaire de mettre en question notre anthropocentrisme, cette conception par laquelle nous nous faisons le centre du monde. Alors, la protection des animaux n'existe-t-elle pas que nous les reconnaissions comme des êtres qui ont une dignité à l'égal des hommes? Pourquoi, en effet, les hommes auraient-ils seuls des droits? Pourquoi les hommes seraient-ils les seuls êtres dont on ne peut disposer de la vie à sa guise? En vérité, la différence que nous établissons entre les hommes et les animaux n'est peut-être pas aussi fondamentale que nous le prétendons. La théorie de l'évolution des espèces, dont le fondateur est Charles Darwin, qui publie en 1859 « L'origine des espèces », les travaux de la paléontologie génétique, toutes ces sciences assez récentes, nous ont appris qu'il y a une continuité de toutes les formes du vivant, notamment de tous les animaux, qu'ils soient humains ou non. Et pas plus que les autres espèces, l'espèce humaine, n'est une réalité immuable qui aurait toujours été ce qu'elle était depuis le début. Dieu n'a pas créé de toute éternité l'espèce humaine, pas plus que celle du chien ou celle du singe. La paléontologie génétique permet de comprendre que nous sommes des cousins des singes. Les premiers hominoïdes dont dérivent les humains et les singes actuels remontent à plus de 15 millions d'années. Alors les hommes sont certes différents des autres animaux, mais pas au point d'être des êtres radicalement différents. Ils sont fondamentalement des animaux, ce sont des animaux comme les autres. Et comme les autres animaux, ils sont le fruit de l'évolution naturelle, et ce qui les différencie des bêtes n'est ni une différence absolue, ni une opposition de nature. Alors, l'homme prétend se distinguer des animaux par son esprit, mais rien ne dit qu'on ne puisse pas expliquer toutes les manifestations de son esprit par les mécanismes de son cerveau. C'est en tout cas l'hypothèse aujourd'hui des neurosciences. Toujours est-il que la frontière entre l'homme et certaines espèces animales n'est peut-être pas aussi nette que nous l'avons longtemps pensé. L'éthologie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthologie, c'est-à-dire la science du comportement animal, montre qu'il y a de la conscience chez la plupart des animaux supérieurs, qu'il y a des modes de communication chez de nombreuses espèces sociales, qu'il y a de l'intelligence chez les primates. Ainsi, si la frontière entre l'homme et l'animal est floue, s'il s'avère qu'il n'y a entre l'homme et certaines espèces animales qu'une différence de degré, pourquoi persister à considérer que seuls les hommes peuvent bénéficier de droits? Pourquoi en exclure les animaux? Si l'homme n'est en définitive qu'un animal comme les autres, ne doit-il pas traiter les animaux, on devrait dire les animaux non humains, comme il traite les autres hommes? Ne doit-il pas reconnaître aux animaux non humains, à ceux que nous appelons incorrectement les bêtes, des droits analogues à ceux qu'il reconnaît aux autres hommes? Ainsi, les animaux ont-ils des droits? Alors, il faut mesurer ce que cette question a de contemporain. Elle se pose aujourd'hui surtout depuis que les sciences naturelles conduisent à mettre en cause la frontière que nous pensions absolue entre l'homme et la bête, et à penser de plus en plus que les hommes ne sont après tout que des animaux comme les autres. Mais ceci étant dit, on ne peut pas aborder la question sans examiner d'abord les difficultés qu'impliquent ces termes. La première difficulté, si vous voulez, que l'on rencontre, tient au terme d'animaux. Il faut bien reconnaître que ce terme a une très très large extension. Il peut désigner une extrême variété d'êtres vivants. Les protozoaires, des puces, des grenouilles, des rats, des singes, des éléphants. Aussi, quand nous parlons des droits des animaux, cette formule devrait normalement concerner cette extrême variété. Or, nous voyons bien que dans la pratique, ce n'est pas le cas. Lorsque nous pensons à reconnaître les droits des animaux, nous n'incluons pas tous les animaux. Nous pensons surtout aux animaux qui nous sont les plus proches biologiquement, principalement aux mammifères, et certainement pas aux puces, ni aux moustiques. En outre, qu'est-ce qui permet de définir l'animalité d'un animal. Quels sont les critères qui permettent de définir l'animalité? Ces critères risquent d'apparaître souvent discutables. J'en évoquerai deux. D'abord, les scientifiques définissent souvent l'animal, par opposition au végétal, comme un être vivant hétérotrophe. Hétérotrophe, H-E accent aigu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Eh bien, par là, ils entendent un être qui se nourrit de substances organiques. C'est-à-dire soit des végétaux, soit des animaux. Et on voit ici que ce concept d'animal montre qu'il va être assez difficile de parler en général des droits des animaux, si par ces droits, on entend le droit pour les animaux de vivre selon leur propre nature, selon leurs propres intérêts, puisqu'un animal, par définition, ne peut vivre qu'en détruisant du vivant. Un animal peut être amené à vivre en détruisant d'autres animaux. Mais ce n'est pas le concept qui est retenu par les défenseurs des animaux, de la cause animale. Bon, par ceux qui défendent la thèse animaliste, on va dire les choses comme ça. Ils avancent un tout autre critère pour définir l'animalité, celui de sensibilité. On dit ainsi que les animaux sont des êtres vivants sensibles. Et c'est ainsi que, depuis janvier 2015, ou février 2015, je ne sais plus très bien, peu importe, le Code civil a été modifié en ce qui concerne les animaux, puisqu'il mentionne pour la première fois une définition des animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Nous y reviendrons. La deuxième difficulté concerne aussi le sens qu'il convient de donner à l'expression de droit des animaux. On peut entendre cette expression en deux sens. Il peut s'agir de considérer d'abord simplement les animaux comme des objets de droit. Et à ce titre, l'existence des animaux se trouve réglementée. Elle relève de plusieurs codes juridiques. Ainsi, la protection des animaux, de l'élevage et de la pêche est réglée par le code rural, qui indique que l'animal doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Le code de l'environnement, quant à lui, réglemente la chasse et définit les espèces protégées ou nuisibles. Le code pénal réprime les sévices envers les animaux. Enfin, le code civil réglemente leurs propriétés. Il assure par exemple à un berger qu'il est bien le propriétaire de ses moutons. Et le Code civil a beau avoir introduit depuis 2015 une définition des animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité, il n'en soumet pas moins les animaux à ce qu'il nomme le régime des biens. En d'autres termes, les animaux sont appréhendés comme des biens qui appartiennent à un propriétaire humain. Cette présentation des différents codes juridiques qui réglementent la vie des animaux montrent donc que lorsqu'il est d'abord question des droits des animaux, ces droits s'entendent objectivement, en tant que les animaux sont des objets de droit dont découlent pour les hommes un certain nombre d'obligations. Je prends un exemple. J'ai le devoir de respecter la propriété d'autrui, j'ai donc le devoir de ne pas enlever ses moutons au berger qui en est le propriétaire. Mais est-ce en ce sens que la question entend surtout les droits des animaux? Quand on revendique des droits pour les animaux, on ne les considère plus simplement comme des objets de droit. On exige qu'ils soient reconnus comme de vrais sujets de droit, analogues aux êtres humains. C'est-à-dire qu'on considère que les animaux sont des êtres qui sont respectables en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et c'est donc bien en ce second sens qu'il faut entendre les droits des animaux. Donc la question aborde surtout la possibilité de leurs droits subjectifs. Ainsi, nous aborderons cette question en trois étapes. D'abord, on se demandera pourquoi traditionnellement les animaux ne sont pas considérés comme des sujets de droit. pourquoi seul l'homme est admis à la dignité de personne. Puis, dans un second temps, on se demandera pourquoi on peut estimer, au contraire, que les animaux doivent être reconnus comme des sujets de droit à égalité avec les hommes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudra dégager les arguments qui permettent d'établir chacune de ces thèses opposées. Et puis enfin, dans un troisième temps, on se demandera s'il est vraiment possible d'affirmer que les animaux sont des sujets de droit. On verra que cette affirmation débouche sur une série de contradictions qui, sans doute, la rendent absurde. Alors, premier point, premier temps, pourquoi, traditionnellement, refuse-t-on de considérer que les animaux ont des droits? Je m'appuierai ici sur l'argumentation d'un philosophe très connu, philosophe allemand des Lumières, fin du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, c'est une référence en matière d'éthique. Alors, que dit Kant? Je résume, bien sûr. Les animaux ne peuvent avoir de droits parce qu'ils n'ont pas de raison. Et n'ayant pas de raison, eh bien, ils sont incapables d'agir en se représentant des buts ou des principes de conduite. Ils sont incapables de s'interroger sur le sens de leur conduite. Parce que la raison, c'est cette faculté par laquelle on se représente des règles, des lois. Et on peut agir en fonction de ces règles, de ces lois. Alors, certes, les animaux poursuivent eux aussi des buts, mais ils les poursuivent par instinct. Seulement parce qu'ils sont poussés de l'intérieur de leur nature à les suivre. Alors l'homme, au contraire, disposant de la raison, eh bien, est capable de se déterminer indépendamment de mobiles sensibles. Et ainsi, c'est parce qu'il dispose de la raison que l'homme est capable de s'auto-déterminer, qu'il est capable de ce qu'on appelle tout simplement la liberté. Et par là, il se distingue radicalement des animaux. La liberté qui est constitutive de son être fait de lui une personne qui a une dignité absolue. On va employer la notion de personne. C'est la liberté, donc, je répète, constitutive de son être, fait de l'être humain une personne qui a une dignité absolue. Pourquoi? Parce que cette liberté interdit qu'on puisse réduire l'être humain à un instrument, à une simple chose dont on peut disposer à sa guise. C'est-à-dire qu'on va opposer, voyez, la notion de personne à la notion de chose. À l'inverse, les animaux, qui, étant dépourvus de raison, sont dépourvus de toute liberté, eh bien les animaux ne peuvent pas être des personnes. Et comme ils ne peuvent pas décider de leur existence, eh bien ils peuvent être utilisés par l'homme à son profit comme simple moyen. La première utilisation que l'homme peut en avoir, c'est la nourriture. Et par conséquent, dans ce but, il peut mettre à mort les animaux. La seconde utilisation que l'homme pouvait en avoir, parce que maintenant il l'a remplacée par des machines, eh bien, il pouvait effectivement utiliser les animaux comme moyen de travail, comme c'était le cas pour les animaux de labour et de transport, c'était le cas des chevaux surtout. L'animal peut encore servir à d'autres usages, il peut être utilisé, comme c'est le cas des abeilles, pour les fruits de leur activité. Ainsi, récolte-t-on le miel, qui est le fruit du butinage des abeilles. Et il peut être aussi, en fait, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, il peut être aussi une aide pour des êtres humains handicapés, comme c'est le cas des chiens aveugles. En bref, que ce soit comme un bien ou comme une machine, l'animal peut être utilisé par les hommes. Il peut être un instrument à leur service. Et on voit ici que ce qui fonde l'opposition de statut entre l'homme et les animaux, c'est la distinction morale et juridique que l'on établit entre les personnes et les choses. Si l'animal, sur le plan moral et juridique, n'est qu'une chose, est-ce que cela veut dire qu'il peut être utilisé n'importe comment. Est-ce que ça veut dire que l'homme peut en faire n'importe quoi et qu'il peut éventuellement le soumettre à des traitements cruels? Alors ici, il faut suivre avec attention l'argumentation justement de Kant, qui est sur ce point très intéressante. S'il est vrai que les bêtes n'ont pas de droit, les hommes ont cependant des devoirs à leur égard. Il faut notamment éviter de les faire souffrir inutilement et interdire tout traitement cruel. Alors évidemment, on se posera la question suivante. Pourquoi de tels devoirs alors qu'il n'y a rien dans les bêtes qui fasse qu'elles soient dignes de respect, alors qu'elles ne sont pas des personnes? Réponse de Kant. Parce que les animaux sont, alors, c'est un, je mets ça entre guillemets, sont un analogone de l'humanité. Rassurez-vous, je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement parce que nous ne pouvons pas nous résoudre à ne voir en eux que des choses. Parce que notre rapport avec les animaux est tel que nous les voyons comme une sorte d'analogue des êtres humains. Évidemment, Kant veut surtout parler des animaux qui nous sont les plus proches. Pour le dire autrement, notre rapport aux animaux est toujours teinté d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous empêcher de les voir comme des personnes, même si, bien sûr, ce ne sont pas des personnes. Et s'il faut s'interdire de les traiter avec cruauté, c'est précisément pour cette raison. C'est dans la mesure où, à travers le rapport que nous entretenons avec les animaux, se joue notre rapport aux autres êtres humains, notre rapport à l'humanité. Ainsi, en s'habituant à la cruauté envers les animaux, les hommes cultivent un penchant au sadisme qui peut les conduire plus facilement à faire preuve de cruauté vis-à-vis des autres êtres humains. Le plus grave dans la cruauté et les mauvais traitements que l'on inflige aux animaux, c'est bien que l'homme s'y dégrade lui-même et y perd son humanité. Alors vous avez un texte que je vous ai photocopié, premier texte, on ne va pas tout lire, mais un passage de ce premier texte de Kant, juste qui est souligné, joli. Voilà ce que Kant écrit dans ce premier texte. La reconnaissance même pour les longs services d'un vieux cheval ou d'un vieux chien, comme si c'était une personne de la maison, rentre indirectement dans les devoirs de l'homme, si on les considère relativement à ces animaux. Voilà ce passage. Alors, ces exemples sont intéressants. Pourquoi estimons-nous de notre devoir de bien traiter un vieux cheval qui est si vieux qu'il ne peut plus nous rendre des services, les services qu'il nous rendait auparavant? Pourquoi ne pas tout simplement l'abattre, puisqu'il ne sert plus, puisqu'il est devenu inutile? Comme le répond Kant, par reconnaissance pour les longs services qu'il nous a rendus. Ainsi, nous le traitons comme s'il s'agissait d'une personne, comme si nous avions un contrat moral avec lui. Alors, ne nous méprenons pas. Kant ne dit pas que ce vieux cheval possède en lui-même une dignité qui exige qu'on le respecte en tant que personne. Ce ne peut pas être le cas, parce que le cheval est un animal, et un animal ne peut pas être une personne. Si donc nous avons des devoirs envers certains animaux, ce n'est pas parce qu'ils ont par eux-mêmes des droits, mais c'est parce que se joue à travers eux notre rapport à l'humanité. C'est en définitive parce que nous avons des devoirs envers l'humanité. Notons que c'est dans le même esprit qu'a été votée en 1850 la loi Gramont en France. C'est la première loi de protection des animaux. Elle interdit les traitements infligés en public aux animaux domestiques. Cette loi ne réprime que la cruauté accomplie en public, car celle-ci peut justement heurter ou corrompre la sensibilité des hommes. C'est pour ça. Alors depuis 1963, la protection des animaux a été renforcée, puisqu'une loi a été votée qui instaure un délit de cruauté, que les faits soient publics ou non. Mais la législation continue à ne concerner que les animaux domestiques, les animaux sauvages, ne bénéficient d'aucune protection. Mais pourquoi restreindre, me direz-vous, le statut de personne à l'être humain? Pourquoi ne pas l'étendre aux animaux? Telle est la question soulevée par les défenseurs de la cause animale, qui contestent le partage traditionnellement établi entre les hommes et les animaux. Selon ce partage, rappelons-le, seul l'homme est un sujet de droit, car seul il dispose de la raison. Or, justement, vous allez voir, ce critère va paraître discutable. Et le premier à le mettre en question, c'est le philosophe anglais Jeremy Bentham, dans son introduction aux principes de morale et de législation, paru en 1789. Et justement, je vous ai photocopié un petit extrait de cette œuvre. Alors, là encore, je ne vais pas tout dire, hein, et je résume son argument. Pour valoriser l'homme au détriment de l'animal, on avance ordinairement le critère de la raison, ou aussi celui du langage. Mais comme le souligne Bentham, et là je cite un passage de son texte, c'est à peu près au milieu, un cheval parvenu à maturité ou un chien est par-delà toute comparaison un animal plus sociable et plus raisonnable qu'un nouveau-né âgé d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois. Alors, si la raison était vraiment le critère moral qui permet de reconnaître des droits à un être, il faudrait alors considérer que les bébés, n'étant pas capables de raison, ne sont pas des sujets de droit. Et évidemment, pour Bentham, c'est la capacité d'un être à éprouver du plaisir et de la peine, c'est la sensibilité qui seule permet de justifier qu'un être ait des droits. Cette capacité se traduit en tout animal par le fait de poursuivre des intérêts. Ainsi, c'est en tant que les animaux ont des intérêts, tout comme les hommes d'ailleurs, qu'ils sont des sujets de droit. Alors un bébé humain n'est pas capable de raisonner et de parler, il n'en est pas moins un sujet de droit, car il poursuit lui aussi des intérêts. Bentham ouvre la voie ainsi à toute la lignée des philosophes de l'animalisme pour lesquels les animaux ont des droits à l'égal des hommes. Et parmi ces philosophes contemporains, il faut surtout citer Peter Singer, philosophe australien vivant aux États-Unis, qui a fait paraître en 1975 un livre qui a pour titre « Libération animale » et qui a eu un très grand retentissement, surtout aux États-Unis. Il faut encore citer Tom Regan, l'auteur des droits des animaux, paru en 1983. Puis il y en a encore d'autres, bien sûr. Alors, vous verrez dans le texte numéro 3, Singer reprend l'argumentation de Bentham. Je lis le début, le haut du texte. Un être a des droits s'il a des intérêts. Et alors, ici, voilà ce qu'écrit Singer, la capacité de souffrir et d'éprouver du plaisir est un prérequis pour avoir des intérêts, une condition à remplir avant de pouvoir parler sensément d'intérêt. Et il donne des exemples pour s'expliquer. Un caillou ne peut rien éprouver. Les coups de pied qu'il peut subir de la part d'un enfant, d'un écolier sur le chemin de l'école, ne lui font rien. Il ne peut donc pas avoir d'intérêt. Et partant de là, il ne peut pas être un sujet de droit. A l'inverse, comme le dit Singer, une souris, prends l'exemple de la souris, une souris a en revanche intérêt à ne pas recevoir de coups de pied tout le long du chemin, parce qu'elle en souffrirait. Ainsi, une souris a des intérêts et elle est donc un sujet de droit. Alors, comme on ne peut pas établir de hiérarchie entre les intérêts de tous les êtres qui ont des intérêts, En conséquence, il n'y a aucune hiérarchie à faire entre eux. Ils sont tous également sujets de droit. C'est-à-dire que tous les êtres sensibles, capables de plaisir et de peine, c'est-à-dire au fond tous les animaux, parmi lesquels on compte les hommes, eh bien tous les êtres sensibles sont également des sujets de droit et ont une égale dignité. En conséquence, il n'y a aucune raison de traiter différemment sur le plan moral et juridique les animaux et les hommes, ou, pour exprimer les choses conformément à la thèse animaliste, il n'y a aucune raison de traiter différemment les animaux non humains et les animaux humains. Ce sont tous des animaux. Ce serait sinon faire preuve de ce que Singer appelle le spécisme. Le spécisme, texte numéro 4. Et il définit ce qu'est le spécisme. Hein, je lis le début de son texte. Le spécisme, le mot n'est pas très joli, mais il ne m'en vient pas de meilleur à l'esprit, dit Singer, est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et de parti pris défavorable envers ceux des membres des autres espèces. En d'autres termes, être spéciste, c'est discriminer les êtres en fonction de leur espèce, tout comme être raciste ou sexiste, c'est discriminer les êtres humains en fonction de leur race ou de leur sexe. Et comme c'était déjà le cas de Bentham, Singer n'hésite pas à faire un parallèle entre l'esclavage et le traitement des animaux. À la libération des esclaves doit succéder bientôt la libération des animaux, d'où le titre de son ouvrage, Libération animale. Il faut ainsi en finir avec l'exploitation des animaux, avec l'expérimentation sur les animaux, même si elle permet de mettre au point des vaccins, avec l'utilisation de produits d'origine animale pour nous nourrir ou aussi pour nous vêtir. Il faut ainsi refuser les habits qui sont faits en peau d'animaux morts ou qui sont issus de la tonte des animaux, c'est le cas des moutons, hein, qui donnent de la laine. C'est le véganisme. Il faut en finir avec la propriété des animaux, y compris des animaux domestiques. Et à ce propos, un autre penseur des droits des animaux, lui qui est encore plus radical, qui s'appelle Gary Francione, d'origine italienne mais américain, eh bien cet autre penseur explique que tant que les animaux sont considérés comme des choses et comme notre propriété, eh bien il nous est impossible de prendre en compte leur intérêt. De même que l'intérêt des esclaves n'était pas pris en compte par les propriétaires d'esclaves. Et selon Gary Francione, toute libération animale doit commencer par la fin de la relation de subordination que nous imposons aux animaux en général et aux animaux domestiques en particulier. Et dans cette perspective, la seule mesure véritablement libératoire, véritablement efficace, selon lui, qui permettrait d'en finir avec la soumission des animaux domestiques, serait de tous les stériliser pour éviter que ne se maintiennent des relations de subordination dans les générations suivantes. La solution est radicale. Alors, mesurons bien ce que l'on appelle l'antispécisme de la conception animaliste. Cet antispécisme conduit à refuser tout avantage aux humains, puisqu'avantager les humains, c'est par définition être spéciste. Il refuse toute spécificité à l'humanité, fondée sur les critères de la raison et de la conscience. Et conséquemment, eh bien, le traitement qu'on refuse à des êtres humains, comme l'exploitation de l'homme par l'homme, comme l'esclavage, la violence, eh bien, ce traitement que l'on refuse à des êtres humains doit être également refusé concernant les animaux, c'est-à-dire ni abattage, ni élevage, ni massacre pour la fourrure. L'antispécisme est un anti-humanisme, si par humanisme on désigne toute doctrine qui accorde une valeur particulière à tout être humain simplement parce qu'il est humain. J'en viens à ma dernière partie. Est-il vraiment possible d'affirmer que les animaux sont des sujets de droit, du seul fait qu'ils sont des vivants sensibles, capables d'éprouver du plaisir et de la peine? Nous allons voir que cette affirmation débouche sur une série de contradictions qui la rendent absurde. À la base du raisonnement de l'animalisme, il y a le concept d'animal, dont nous avons dit au départ combien il était vague, puisqu'il s'applique à une extrême variété d'êtres vivants, et aussi parce que les critères qui permettent de définir l'animal peuvent paraître discutables. La thèse animaliste retient, comme on l'a vu, le critère de la sensibilité. Mais pourquoi? Pourquoi celui-ci et pas celui qu'utilisent les scientifiques, qui parlent de l'hétérotrophie, pour caractériser l'animal? Si on prend ce dernier critère, effectivement, il rend absurde l'idée d'un respect égal des intérêts de tous les animaux, puisqu'un animal, par définition, ne peut vivre qu'en détruisant du vivant. Ainsi, en interdisant à un animal de tuer un animal d'une autre espèce, au nom des droits de ce dernier, on empêche le premier tout simplement de vivre. Alors, on dit qu'il faut empêcher la souffrance causée aux animaux, notamment aux animaux sauvages. Mais à quels animaux s'arrêter? Aux gastéropodes? Aux poissons de rivière? Est-ce qu'il faut punir la non-assistance à l'animal souffrant et sanctionner celui qui n'aura pas recueilli l'oiseau tombé de son nid? Et sera-t-il bientôt obligatoire de nourrir les pigeons et les rats des villes? C'est une question qu'on se pose tout de même. En outre, le concept d'animal est pris dans deux sens incompatibles dans le raisonnement animaliste. Je m'explique. En effet, tantôt le sens du mot animal inclut l'homme, on dit qu'il fait partie du genre animal, on insiste sur le fait qu'il est un animal comme les autres, et puis tantôt il l'exclut, et on distingue à ce moment-là l'homme de la bête. Et le terme d'animal s'entend en ce sens-là comme celui de bête. Que dit en effet l'animalisme? Il dit d'abord, l'homme est un animal comme les autres, qui ne peut pas prétendre se distinguer des autres. Et de cette première proposition, il infère une prescription. Puisque l'homme est un animal comme les autres, et que les animaux sont égaux en dignité, nous, les hommes, devons inclure les autres animaux dans notre communauté morale. Nous devons traiter les autres animaux comme nous traitons les autres hommes. Dans la première proposition, l'homme se définit comme un animal comme les autres, mais dans la seconde, la prescription qu'on prétend tirer de la première, dans cette prescription, il n'est pas un animal comme les autres, puisqu'on lui enjoint de traiter moralement les autres animaux, puisqu'on lui reproche de les maltraiter. Ainsi, dans la deuxième proposition, on définit l'homme par le fait qu'il s'oppose aux bêtes, justement. Or, de deux choses l'une, soit l'homme est un animal comme les autres, et alors on ne voit pas pourquoi il devrait, par exemple, s'interdire de manger les autres animaux, comme fait le loup quand il mange les agneaux, soit l'homme, seul, est considéré comme pouvant et devant s'abstenir de certaines conduites vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des autres animaux, mais si c'est le cas, on reconnaît alors qu'il n'est pas un animal comme les autres, et qu'il est le seul animal moral, c'est-à-dire le seul à pouvoir régler ses conduites sur des valeurs et à pouvoir se plier à des devoirs. En tout cas, on ne peut pas passer de la première proposition, l'homme est un animal comme les autres, à la seconde, selon laquelle l'homme doit traiter moralement les animaux. Ou alors on commet un sophisme. Alors, il faut savoir ici que le grand théoricien de l'évolution des espèces, qui était Darwin, ne tombait pas dans ce genre de sophisme, puisqu'il considérait que l'émergence de l'homme faisait naître un être d'un type absolument nouveau, un être moral. C'est vrai que l'homme est le produit d'une évolution naturelle, mais l'émergence de l'homme fait apparaître un être absolument singulier. Un être moral. Et voilà d'ailleurs ce qu'il écrit dans un livre qui s'appelle « La descendance de l'homme ». Le fait que l'homme est l'être unique auquel on puisse avec certitude reconnaître la faculté morale constitue la plus grande de toutes les distinctions qu'on puisse faire entre lui et les animaux. Ainsi pour Darwin, l'homme est un animal, mais un animal unique, qui se distingue des autres animaux par sa capacité à se donner des règles de conduite et des normes de jugement. Et sur ce point, Darwin rejoint Kant. Alors, est-il possible, enfin, de déclarer des droits de l'animal? En 1978, il y a eu une déclaration des droits des animaux, comme on a déclaré les droits de l'homme. Déclarer les droits de l'homme, c'est proclamer l'égalité des hommes, c'est proclamer que tous les hommes ont le droit de vivre et qu'aucun homme n'a le droit de disposer de la vie d'un autre. Or, que peut signifier de dire que tous les animaux ont le droit de vivre? Cela signifie-t-il que le loup n'a pas le droit de tuer et de manger l'agneau? Car ce serait nier à l'agneau son droit de vivre? Ou cela signifie-t-il au contraire que l'agneau n'a pas le droit de nier au loup le droit de le tuer et de le manger? Parce que ce serait nier le droit de vivre du loup? Alors si on répond « Oui, mais non, ça signifie seulement que l'homme, et lui seul, n'a pas le droit de tuer ou le loup ou l'agneau, ou les deux en même temps. » Alors si on répond ça, ça signifie tout simplement que ces animaux n'ont pas de droit. Cela signifie seulement que pour une raison ou une autre, l'homme s'impose des devoirs à leur égard. Mais on ne pourra jamais parler que de devoirs de l'homme, et pas de droits des animaux. Toujours est-il que proclamer que tous les animaux, du fait qu'ils sont des êtres vivants doués de sensibilité, ont un droit à la vie, c'est inconséquent, puisque, comme on l'a vu, de nombreux animaux ne peuvent vivre qu'au détriment d'autres animaux, d'autres espèces. En bref, la notion de droit des animaux est contradictoire. Si l'on concède au loup le droit de vivre, on le retire à l'agneau. Et si l'on dit que l'agneau a des droits, que fait-on du droit du loup à se nourrir? Donc proclamer des droits, c'est forcément proclamer l'égalité de ces droits. Et proclamer l'égalité des droits des animaux, c'est absurde, et même c'est contraire, disons, aux lois de l'écologie. En conclusion, il me semble impossible de reconnaître aux animaux les mêmes droits qu'aux hommes et de les considérer comme des personnes, même si on considère qu'il faut effectivement qu'on a des devoirs à leur égard. Que nous ayons des devoirs envers les animaux, c'est autre chose. Et d'ailleurs, ce sont des devoirs que nous nous imposons. Et nous n'avons pas les mêmes devoirs à l'égard de tous les animaux exactement de la même manière. Ce sont toujours des devoirs différenciés. Alors, on n'a pas le temps d'aborder ça. Mais évidemment, il y aura des devoirs en fonction des catégories d'animaux. Mais si devoirs il y a, ce ne sont pas des devoirs absolus comme ceux qui découlent du fait qu'on aurait affaire à des personnes. Ces animaux ne sont pas des personnes. Alors bien sûr, les hommes sont des animaux. Et ce sont même des animaux sensibles, comme bien d'autres animaux. Mais ce n'est pas pour cela qu'il existe une communauté morale des êtres sensibles. Même si elle relève de l'espèce biologique Homo sapiens, ce qui est bien une espèce animale, les personnes ne sont pas des animaux. Et sur ce point, oui, on va donner raison à Kant. Les êtres humains sont des personnes en ce qu'ils sont des animaux moraux, capables d'agir selon leur raison, capables d'agir selon la représentation d'une loi qu'ils se donnent par la raison. Les personnes forment ainsi une communauté morale de droits et de devoirs réciproques, absolus. Une communauté d'égaux qui ont des droits égaux et se doivent mutuellement le respect. Alors à cet argument, les partisans des droits des animaux répondent par celui des cas marginaux, qui était déjà d'ailleurs utilisé par Bentham, que je développe. Nous reconnaissons bien, disent-ils, des droits aux très jeunes enfants ou aux adultes lourdement handicapés, qui sont incapables de raisonner, ou d'agir par eux-mêmes. Or, ces êtres ont bien des droits. On ne peut ni les tuer, ni les faire souffrir. Et pourtant, ils n'ont pas de devoir. Et pourtant, ils sont incapables d'en avoir. Alors, les partisans des droits des animaux désignent ces cas comme des patients moraux. Des patients moraux. Et ils considèrent qu'il en va de même pour les animaux. Leur argument repose sur la distinction des agents moraux et des patients moraux. Et cet argument prétend montrer que puisqu'il y a de nombreux êtres humains auxquels nous reconnaissons des droits alors qu'ils ne possèdent pas la raison, et c'est-à-dire un critère jugé essentiel pour être humain, eh bien la possession de droits n'est pas réservée à l'humanité. Alors à cet argument, on peut répondre que les droits qu'on accorde à un être ne sont pas des dons qui viendraient a priori de Dieu ou de la nature. En réalité, c'est tout simplement parce que nous reconnaissons les très jeunes enfants ou les adultes lourdement handicapés comme faisant partie de la communauté humaine que nous reconnaissons en eux des personnes, que nous reconnaissons en eux une personne que nous avons été, si c'est l'enfant, ou une personne que nous pourrions ou aurions pu être s'il s'agit d'une personne lourdement handicapée. Les droits que nous reconnaissons à des êtres ne sont pas des droits qui viennent de la nature, ce ne sont pas des dons qui seraient naturellement possédés par tous les vivants en tant qu'ils sont des êtres vivants. Ces droits résultent de la reconnaissance qui leur est donnée par la communauté humaine, qui est une communauté morale. Voilà ce que je voulais dire, et je suis à vos questions, et on peut discuter. Animal moral.
C'est cela. Mais pour reprendre le même terme de bête, même signifiant, effectivement, je trouve que la question, c'est qu'est-ce que vous pourriez dire de la dimension de bête chez l'homme? Parce que s'il lui faut une morale, ça veut dire qu'il ne l'aurait pas instinctivement comme un animal. Ça veut dire qu'il est quand même animé d'un certain nombre de choses rituelles.
Alors, je vais répondre de manière très classique. Hein. L'homme est un animal, il y a de la bête en lui, en ce sens, mais en même temps, il n'est pas réductible.
Non, non, mais qu'est-ce que c'est? Ma question, c'est pas comment on va tourner autour de cette bestialité de la morale, mais au fond, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette dimension-là? Qu'est-ce que la philosophie dit
de cette bestialité qui est en l'homme? Alors, oui. D'accord. Alors là, c'est vrai que ce n'est pas un problème que j'ai vraiment creusé et développé. Hein, vous êtes d'accord?
C'est vraiment au cœur de cette dimension que vous avez dit, car l'homme est capable de faire un mal qui ne se justifie pas.
La différence, si vous voulez, seulement entre. Enfin, ce qui fait que tout de même la question est un peu compliquée pour l'homme, c'est que c'est un animal, mais transformé par la culture.
Le langage.
Et donc, d'une certaine façon, cette transformation joue un rôle considérable. C'est pour ça que, bon, c'est une bête, oui, mais une bête sacrément dénaturée, hein, si vous voulez. Hein, oui.
Qu'il lui faut du droit pour que ça se calme.
il faut dire que je vous entends assez mal. Mais, alors, ce que je disais... reprenez un petit peu, excusez-moi. Rousseau ne dit pas qu'il est bon, hein, moralement. Si vous voulez, là, en fait, je ne vois pas où vous voulez en venir. Parce qu'il peut se représenter des règles de conduite. Il est le seul. Parce qu'il en a besoin, oui. Alors, par rapport à quoi ? Oui. Parce qu'effectivement, la seule limite absolue qu'il se donne, c'est celle du respect de la personne. Oui, c'est du langage. Il ne peut y avoir d'accession, au fond, à une morale que par l'élaboration d'un langage, d'un discours articulé, rationnel. Oui, ça c'est vrai. Et d'une certaine façon, si l'homme peut se laisser aller à la cruauté,
qu'il a en lui,
bien sûr qu'il a en lui, mais il n'est pas, il peut être beaucoup plus violent que les animaux. Les animaux mangent, ils tuent pour manger, pour justement satisfaire leur utilité, alors que les hommes peuvent effectivement tuer par plaisir. Donc il y a une dimension supplémentaire. Et que cette dimension supplémentaire ne vient pas de la nature. C'est par justement, malheureusement, c'est un fait, c'est la culture qui peut effectivement engendrer cette dimension de la cruauté. La culture, elle est ambivalente. Elle peut aussi bien aller dans le sens, effectivement, d'une moralisation de la conduite, une civilisation, si vous voulez, mais elle peut développer aussi des aspects mortifères, des aspects morbides. Hein. Voilà, c'est les deux. Et vous parliez de Rousseau, justement, Rousseau, lui, montre bien que si l'homme n'était qu'un animal, il serait bon, pas au sens moral, au sens où il se contenterait de vivre, et il ne tuerait que parce que, tout simplement, il a faim. Et c'est à partir du moment où les hommes entrent dans un jeu de relation avec les autres, et de comparaison, eh bien qu'ils vont pouvoir devenir méchants et cruels. C'est ça que montre Rousseau. Et ce jeu de relations et de comparaisons, bah, c'est celui qui existe dans le cadre de la culture, hein, si vous voulez. C'est pour ça que la culture, elle peut à la fois, effectivement, contribuer à civiliser l'homme, à le rendre capable de moralité. Hein, et ça, c'est cette dimension-là qu'on a surtout montré. Mais aussi, elle peut effectivement attiser, en quelque sorte, des passions destructrices. Hein, voilà, c'est les deux. Hein, c'est les deux. Et que les animaux n'atteignent pas, hein, ils ne tuent pas par... le sadisme n'existe pas chez les animaux. ça n'existe pas. Il y a une violence animale, mais ce n'est pas une violence au sens où il y a un plaisir de dominer, de montrer qu'on est plus fort. Hein. La violence en l'homme a une dimension morale, pas au sens où je parle de la morale, mais au sens où le plaisir vient de voir l'autre en quelque sorte dominé par moi. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, mais je peux vous dire ça, mais c'est vrai que ce n'était pas le centre de mon propos. Hein.
Ça y amène.
Ça y amène, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être qu'il y a d'autres questions, alors. Si vous voulez en poser d'autres. Donc, la culture pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Mais je ne sais pas, hein. On est d'accord, mais en même temps, si vous parlez de droit, vous ne pouvez pas faire dépendre ça de l'appréciation purement subjective des uns ou des autres. Hein ? Vous voyez, si vous considérez que, si vous prenez au sérieux la notion de droit, ce sont des droits qui s'imposent à tous les hommes. Alors, que nous soyons, en fonction de notre éducation, de notre histoire, plus ou moins sensibles hein, à ce que vivent les animaux, ça je l'entends. Vous voyez ? Mais. On ne peut pas tout déterminer ici par la singularité de l'affectivité de l'individu. Un grand silence.
Évidemment, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que l'animalisme, la thèse animaliste peut aller jusqu'à effectivement considérer qu'il faut arrêter toute expérimentation. Là, il faut en mesurer les conséquences. Le coronavirus et d'autres virus ou d'autres. On ne fera rien. Et malheureusement, on a deux possibilités si on veut mettre au point des vaccins, par exemple. Soit on expérimente sur des animaux, soit on expérimente sur des hommes. L'animaliste dira, il n'y a pas de différence à faire. C'est pareil. Une vie humaine, ça vaut une vie animale. Et réciproquement. Il n'y a pas de différence. Alors évidemment, quand on est humaniste, on considère, oui, qu'il y a un privilège à accorder à l'humanité. Et on considérera que le cas échéant, si c'est nécessaire, faudra effectivement se livrer à l'expérimentation animale. Alors évidemment, on évitera, on pourra codifier ça, éviter que ça se passe de manière absolument inadmissible. Enfin bon, on peut éviter, une cruauté inutile. Ça on est d'accord. Et je pense qu'il y a toute une législation pour éviter, dans la mesure du possible, que ça se passe dans des conditions atroces. Mais bon, on va se cacher que si effectivement on expérimente les animaux, si on fait des expérimentations avec les animaux, c'est qu'on s'en sert comme d'instrument à notre service. Et allez-y, oui. Elle n'est pas respectée, oui, tout à fait. Et vous avez noté que, en fait, oui, bien souvent, elle n'est pas respectée. Alors que, pourtant, on ne conteste pas le principe selon lequel, effectivement, il faut abattre des animaux pour avoir de la viande. Mais même si on respecte ce principe, On peut estimer que, bon, il y a un certain nombre de règles à suivre pour éviter que l'animal souffre. Mais effectivement, vous avez raison, dans bien des abattoirs, c'est pas respecté, bon, pour des histoires de rendement, il faut aller vite, le personnel n'est pas formé, etc., vous savez bien. Et puis, vous savez, il faut bien reconnaître que on s'est débrouillé pour faire en sorte que la souffrance ne soit pas visible. On l'installe dans des lieux clos, fermés, que ce ne soit pas à la vue du public. Je vous parlais de la loi Gramont en 1850. Ce qu'on ne supportait pas, c'était de voir des maîtres battre leur cheval sur la place publique, dans la rue. Hein, souvent, il y avait des maîtres comme ça qui perdaient leur nerf, hein, qui s'acharnaient contre leur cheval. Et ça, c'était un spectacle insupportable. Et insupportable, et pour des raisons éducatives, il fallait éviter, hein, au fond, de susciter le sadisme. Hein, parce que c'est le sadisme, il s'exerce, commence par s'exercer d'abord sur les bêtes, puis ensuite, il va s'exercer sur les hommes. Bon, voilà, c'était cette idée-là. Mais vous voyez bien que ce souci qui était celui qui a présidé au vote de la loi Gramont, eh bien, il a conduit aussi à enfermer les animaux, hein, il a conduit en quelque sorte à rendre invisible justement la souffrance administrée aux animaux dans des conditions qui sont particulièrement immondes aujourd'hui, surtout avec, je dirais, l'exploitation industrielle. C'est-à-dire que, comme on ne voit pas, on fait comme si ça n'existait pas.
C'est là l'intérêt des associations comme L214.
Voilà, voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est fait pour montrer, parce que c'est vrai que nous sommes en ce sens des êtres sensibles, là-dessus nous avons en commun quelque chose avec les animaux, hein, c'est vrai. Rousseau, par exemple, insiste là-dessus, hein. C'est que nous sommes effectivement des êtres sensibles avant d'être des êtres capables de raisonner. Et évidemment, quand on parle des animaux, il s'agit surtout des animaux qui nous sont les plus proches, hein. On n'a aucun scrupule à écraser des fourmis, hein. Bon. Mais c'est sûr que le spectacle d'un animal en train de gémir, enfin, on voit, c'est des spectacles absolument épouvantables, hein. On voit ces animaux, ils ont peur, ils remuent dans tous les sens. Bon, c'est quelque chose qui nous touche, hein. C'est insupportable. Mais c'est pour ça qu'on s'est débrouillé pour isoler. Non, vous ne mangez plus.
Depuis longtemps, donc, il faut aussi expliquer aux enfants et expliquer ce qu'il y a dans leur assiette, d'où ça vient et comment.
Oui.
Même que les femmes qui portent des manteaux de fourrure, il faudrait peut-être leur mettre un DVD,
oui,
avec, en montrant comment c'est fait, ce qu'ils portent sur le dos. Peut-être qu'elles n'en ont pas conscience.
Alors.
C'est une question d'éducation à la base aussi.
Oui. Mais le problème est de savoir jusqu'où on peut, enfin, qu'on condamne la violence exercée contre les animaux, la cruauté des traitements qui leur sont infligés, j'entends, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'extermination des animaux comme on a pu parler de l'extermination des juifs dans les camps? Ça, c'est un discours qu'on entend parfois chez certains animalistes. Et c'est très dérangeant, c'est très perturbant. Oui, mais on reprend tout le discours de l'exploitation de l'homme par l'homme, d'extermination, qui effectivement est lié à l'histoire de l'homme, de l'être humain, et de sa violence à l'égard des autres êtres humains. On reprend ce discours et ce vocabulaire pour caractériser la violence que nous exerçons contre les animaux. Est-ce que c'est du même ordre? Voilà le problème. Si vous voulez, pour un animaliste, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas à donner plus d'importance à l'homme qu'aux bêtes. J'aurais tendance à vous dire que...
Plus l'être humain est cruel, plus on perd de son humanité, plus
Oui, alors, c'est ça. Ça, ce qui est vrai, c'est qu'on peut, on peut très bien, par exemple, sans être animaliste, effectivement, être humaniste et considérer que s'il faut interdire des pratiques cruelles à l'égard des animaux, c'est parce qu'il y va de l'homme. Et qu'une société qui massacre si massivement des animaux et les exploite de façon industrielle et les traite uniquement comme de la marchandise, c'est une société qui, d'une certaine façon, n'a pas non plus une très haute idée de l'homme. On peut tenir ce discours. Oui, mais en même temps, reconnaissez tout de même que les animaux dont vous parlez, ce sont des animaux qui sont sur lesquels vous vous projetez le plus facilement. Ceux qui vous sont les plus proches, les mammifères. Hein. Et c'est vrai que nous n'éprouvons pas du tout, je dirais, la même. Nous n'avons pas la même attitude à l'égard des rats, ou je ne sais pas, enfin, à l'égard d'autres. Il y a des animaux qui, dont la souffrance, en tout cas, ou dont la mort, ne nous fera pas un tel effet. Hein. Vous voyez, il y a aussi, il faut faire aussi la part de l'anthropomorphisme. Et dans l'animalisme, il y a aussi, parfois, on peut se demander une forme, s'il n'y a pas une forme d'anthropomorphisme. Si, au fond, ce que l'on plaint, c'est pas une certaine façon. On ne se projette pas à travers les animaux en éprouvant ainsi un tel dégoût, une telle réaction sensible. Voilà, ça c'est une question aussi qu'on peut se poser. Oui, je ne veux pas parler tout le temps.
Il y a une chose qui est...
Oui, alors, le problème c'est...
Clair, c'est que dans l'industrialisation des produits carnés, les personnes sont venues à parler de minerais. En parlant donc il y a une déclassification finalement vers des choses inertes,
etc. Oui, c'est du matériau.
Donc il y a une perte, enfin, une tentative de sortir les animaux de leur caractéristique animale finalement.
Tout à fait.
D'être doué de souffrance.
Tout à fait. C'est ça qui est le plus choquant. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est une question, quelle que soit la position qu'on a, en tout cas, c'est vrai que c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on va indéfiniment traiter les animaux de cette façon ? D'une part, est-ce que ça bénéficie à l'homme ? Est-ce que cette exploitation absolument industrielle, est vraiment positive, est-ce qu'elle permet vraiment à l'homme de mieux vivre? Est-ce que ce traitement des animaux ne nuit pas d'une manière indirecte aussi à l'être humain? Enfin, c'est une question qu'on peut se poser. Mais c'est vrai qu'il y a une dégradation de l'animal qui est effrayante. Et les mêmes animaux qui, il n'y a pas si longtemps, vivaient, ils étaient exploités par l'homme, c'est vrai, mais ils étaient à la ferme, hein, les poules vivaient au plein air, c'est pour ça qu'on aime le bio, hein, mais les mêmes, on les retrouve dans des espèces de bâtisses énormes, elles ne voient pas le jour, elles sont soumises à des normes de rendement absolument épouvantables, enfin, c'est vrai que c'est assez monstrueux. D'ailleurs, il suffit de passer à côté d'une bâtisse de ce genre-là quand vous sentez, quand vous voyez l'odeur, vous n'avez plus envie de manger. Hein. Mais enfin bon, ça c'est. Ça c'est vrai. Il y a une dégradation de l'animal en matériaux, en matière. En matière. Qui est assez.
Le terme de minerai.
Minerai.
Choqué
tout à fait.
C'est apparu pendant la crise des viandes hachées. Là,
les vaches folles.
Non, pas les vaches folles. Il y a eu après de la viande hachée.
Ah oui. Etc. Oui, dans le midi, dans le sud-ouest.
Parler de minerai.
Non. Ouais. Non, encore une ou deux questions, puis après que l'heure il est, après on pourra peut-être. Encore une question ? Je ne sais pas si j'ai toujours bien répondu, hein, mais bon. Alors pour ceux qui sont arrivés au fur et à mesure, je voudrais dire que je voudrais faire connaître l'existence de l'association Philopop, l'association populaire de philosophie du Havre, qui tient des séances de philosophie deux fois par mois environ, tous les ans, au lycée Claude Monet. Ça s'adresse à tout le monde. Hein. Et puis, voilà, ça c'est important, que vous sachiez, il y a un site de l'association. Vous avez un prospectus qui montre tout ça. Donc, si ça vous intéresse, il y a actuellement 137 adhérents. Voilà. Et puis, il y a une émission mensuelle sur la radio Westrack.